DW. Pulsation.
La migration clandestine touche de nombreux pays africains, dont la Guinée. Le rêve européen, qui se transforme souvent en cauchemar, est à l'origine de tragédies qu'Isabelle Kolkol Loua n'accepte pas. La jeune réalisatrice de Conakry nous parle aujourd'hui de son film « The Way », sorti fin 2019, qui traite de la migration d'une perspective un peu différente de celle qu'on a l'habitude de voir. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, c'est Yann Durand au micro, c'est Pulsation et c'est parti.
C'est où la terre promise ?
La terre promise, c'est l'Afrique.
Ah oui, chez moi, l'Afrique.
Isabelle Kolkol Loua, bonjour.
Bonjour.
Nous allons parler de votre film The Way, qui parle de la migration. D'abord, j'aimerais savoir, est-ce qu'on peut évaluer à peu près, ou est-ce que vous avez des chiffres concernant la migration clandestine en partance de Guinée ?
Il y a 2 ans, notamment en 2019, la présence de migrants irréguliers en France. Côté guinéen, la Guinée était numéro 1, en fait, il y a 2 ans. Donc, ce qui laisse à penser que le pourcentage est énorme, parce que autant la Guinée est présente en France, elle est autant présente dans les autres pays environnant la France.
Votre film, The Way, pourquoi vous l'avez appelé ainsi?
J'ai choisi ce titre parce qu'il me dit tout. The way en anglais, ça veut dire le chemin. Ça veut aussi dire la manière. Et ce que fait mon personnage principal, c'est montrer un chemin et montrer une manière de faire, une nouvelle manière de faire, de laquelle pourrait s'inspirer toute cette génération à laquelle je m'adresse. Et c'est pourquoi je me suis dit que intituler ce film comme ça en français aurait été insuffisant. Et puisque aujourd'hui, le monde est un village planétaire, et la langue n'est plus vraiment un problème, donc j'ai décidé de l'intituler comme ça, et puis ça me plaisait, bien oui, voilà.
Mais écoute, le voyage
oh. Écoute mec, je te remercie franchement de te soucier de moi. Ça me touche vraiment. Mais ce chemin-là, c'est pas le mien. C'est pas mon chemin. J'ai d'autres projets.
On sait que effectivement les chiffres de la migration irrégulière ou clandestine, on l'appelle comme on veut, vers l'Europe en partance de la Guinée sont assez importants. Donc c'est un sujet qui vous tient à cœur et qui est important aussi pour la société guinéenne. D'habitude, on montre dans ce genre de film le voyage des migrants difficile. Ou alors la désillusion lorsqu'ils sont en Europe. Vous avez choisi de montrer autre chose. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la trame de l'histoire rapidement?
Oui, moi j'ai décidé de parler de l'avant. J'ai décidé de prendre le mal à la racine. Parce que chaque fois qu'on parle de migration, on montre toujours des gens qui partent. Et ça ne décourage personne. Les gens qui meurent dans la Méditerranée, les gens sont fatalistes. Ils se disent, si tu dois mourir, tu mourras. Ça ne décourage absolument personne. Alors, j'ai voulu aller d'abord dans le préventif. C'est pourquoi j'ai mis sur scène un jeune homme qui est diplômé, comme la plupart des migrants qui partent,
oui.
Et qui cherche du travail, qui fait des stages, qui n'aboutit jamais. Et jusqu'à ce qu'un jour, un ami à lui, connaissant ses difficultés, vienne lui proposer de se joindre à un groupe d'anciens amis d'école, pour quitter le pays par la Méditerranée. Et donc là, le jeune homme, il refuse l'idée. Et puis, contrairement à lui, sa maman y adhère complètement. Lui, il a plutôt envie de créer un restaurant. Idée que sa mère n'accepte pas du tout. En complicité avec le meilleur ami de son fils, elle a vendu ses biens pour pouvoir financer le voyage vers l'Europe. Alors, c'est là son fils lui dit, mais si tu as de quoi financer un tel projet utopique, pourquoi ne pas financer un projet dans lequel je crois et qui me permet de rester auprès de toi? Mais elle était aveuglée par l'Europe et ça s'est mal passé avec son fils, qui a finalement décidé de faire croire à sa maman qu'il partait. Il a récupéré des mains de sa mère ce qu'elle avait pour financer le voyage. Et avec cela, il a monté son entreprise, juste sous le nez de sa mère, dans la même ville, mais un peu à l'écart. Et pour punir sa mère, en quelque sorte, il reste 4 ans sans donner de nouvelles, comme pour lui donner un aperçu de ce qu'aurait pu être sa vie si toutefois il ne revenait pas d'un tel voyage.
Finalement, la mère tombe malade de chagrin et Malik, son fils, vient à son chevet. Une mère reste une mère, elle pardonne donc à son fils de lui avoir joué ce tour et se réjouit de le retrouver. Tout est bien qui finit bien.
Il était tout pour la maman, tout pour sa daronne, tout pour la maison. Est un fils unique, Malik, Malik, Malik.
Alors il y a des choses qui m'ont frappé, par exemple le fait que Malik, puisque c'est lui le protagoniste, est souvent habillé avec des tissus traditionnels, etc. Alors que son meilleur ami, qui essaie de le convaincre de partir, a lui toujours des t-shirts et des fringues à la mode venant d'Europe. C'était une manière de symboliser un peu la différence de mentalité entre les deux personnes.
Oui, oui, absolument. Malik, lui, il est toujours simplement habillé. Ça montre un peu la force mentale de Malik, l'authenticité de Malik et tout, pendant que l'autre, tout est apparent chez lui. Alors qu'il a un frère en Europe, c'est-à-dire que son frère, il y a des gens comme ça au pays ici, qui reçoivent de l'argent pour faire des choses sérieuses, mais ils mettent tout dans l'apparence, dans l'habillement. C'est un peu ce qu'incarne ce personnage.
D'accord, c'est ce que j'allais vous demander. C'est-à-dire qu'en fait, le film que vous avez réalisé dépeint une réalité dont vous avez des exemples au jour le jour.
Oui, oui. Oui, absolument. En fait, mon constat est parti de là. Quand on met en scène, par exemple, la maman,
oui.
Il y a beaucoup de mères aujourd'hui qui sont à l'origine de la disparition de leurs enfants dans la Méditerranée. Il y a beaucoup de mères qui sont à l'origine du retard de leurs enfants qui partent en Europe et qui ne sont pas réguliers, qui tournent en rond, qui sont obligées de tout recommencer à zéro. Donc, ce sont ces mères ambitieuses qui, à cause du voisin dont le fils est parti, qui maudissent même leurs enfants qui restent sur place. Donc, il y a un grand pourcentage de mamans, en tout cas de parents, bref, qui sont responsables de cette situation migratoire.
De parents ou de proches. Au-delà du divertissement que procure votre film, c'est également une volonté de sensibiliser le public à cette problématique. Vous avez réalisé ce qu'on appelle un moyen-métrage qui dure un peu plus de 40 minutes, c'est bien ça, 40-45 minutes. Quelles ont été les difficultés auxquelles vous avez été confronté pour réaliser ce projet ?
J'ai écrit le film et après je suis allée vers la FITEL, la Direction Nationale du Cinéma. Mais cette direction est dépourvue de moyens.
Mmh.
Tout ce que cette direction a pu me donner, c'est les papiers m'autorisant à tourner gratuitement. Mais au-delà de ça, cette direction ne pouvait même pas me fournir même 10% de mon budget. Du coup, je me suis rendue aussi à l'OIM, l'Organisation de la Migration, et ils m'ont dit que oui, c'est une idée originale, c'est ce dont nous avons besoin, mais nous, on n'accompagne pas ce genre de projet. Donc après, j'ai pris du temps à réfléchir et j'ai rassemblé mes amis en leur disant que je veux faire ce film, mais je n'ai absolument rien à vous donner. Je ne peux même pas vous payer vos cachets. Je ne peux que vous offrir des services de transport et puis le repas sur le plateau. Et tout le monde a dit oui, le projet nous plaît et on va y aller. Donc entre-temps, je suis tombée sur un monsieur, le directeur national de l'ONFCP, l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel. Je lui ai expliqué le projet. Il m'a dit, j'achète, mais je ne peux pas te donner l'intégralité de ce que tu demandes. Je vais quand même te donner un quart de ton budget, voir ce que tu peux faire avec ça. Donc, j'ai accepté. Le film est sorti. Ce monsieur et sa direction nous ont accompagnés de la production à la post-production jusqu'à la sortie du film. Donc, c'est vrai, j'ai eu des difficultés, mais tous ceux qui sont intéressés par la cinématographie n'ont pas pu m'aider. C'est un étranger, quelqu'un qui s'occupe d'autres choses, qui est intéressé aussi par la question de migration, qui m'a donné un coup de pouce, me permettant de sortir mon film.
Donc, c'était vraiment une odyssée et aussi une question d'idéalisme, notamment de la part de vos amis qui ont participé au film en renonçant à un cachet. Ça montre aussi l'importance du sujet. Problème évidemment chronique, notamment dans la plupart des pays d'Afrique, de financement du cinéma. Mais ça ne vous empêche pas d'avoir, j'imagine, l'envie de réaliser d'autres projets. Est-ce que vous en avez dans un avenir proche?
Oui, oui. J'ai pas mal de projets. Je viens de faire un court-métrage sur la question de violence.
Les violences conjugales ou la violence en général?
La violence conjugale, mais et sur la mère et sur l'enfant.
Donc des sujets qui vous préoccupent, et c'est surtout un cinéma responsable, un cinéma un peu avec un message politique quand même.
Oui, 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 parce que en parallèle de ce projet sur la violence, je suis en train de tourner un documentaire, mais comme c'est un documentaire, ça prend du temps
bien sûr.
De chercher des choses. Ça, c'est sur la manière de la Guinée de gérer le problème du plastique. Parce que la Guinée est envahie par les sachets plastiques. Et j'ai l'impression, à mon plus grand regret, que les autorités n'y mettent pas du sien. Il n'y a aucune réglementation, ou alors s'il y en a, elle n'est pas appliquée du tout. Et donc, tout le monde fait ce qu'il veut, tout le monde jette les sachets plastiques où il veut. Et après, ça nous envahit. Voilà. C'est un documentaire de 26 minutes que je veux faire. Et ça, je prends mon temps pour le faire parce qu'il faut le documenter, comme on dit.
Effectivement. En tout cas, vous serez la bienvenue dans cette émission pour parler un peu de ces causes pour lesquelles vous vous engagez de manière cinématographique. Merci beaucoup, Isabelle Kolkol-Loua, pour votre disponibilité et bonne chance dans vos entreprises.
Merci beaucoup, Yann.
Et on se quitte au son de la kora électrique du Guinéen Ba Sissoko. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Pulsation. Merci de l'avoir suivi. Vous accédez au podcast sur dw.com/français. Bonne continuation à l'écoute de la DW. Salut!